Montre-moi tes gènes et je te dirai qui tu es. Les avancées de la génétique n'ont cessé d'entretenir un malentendu entre le public et les chercheurs de cette jeune science. Beaucoup pensent que les gènes nous permettent de lire l'avenir de nos maladies comme dans une boule de cristal. Dans un essai critique, le généticien Arnold Munich met en garde contre la confusion, les dérapages et les faux espoirs liés à la génétique. Il est mon invité dans un instant avec la journaliste Lise Barnéou qui a expérimenté pour Science et Vie un test de médecine prédictive afin de déchiffrer son génome. J'attends dès maintenant vos questions, vos messages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, on redécouvre l'Europe foisonnante d'il y a 10 000 ans, Axel Villard, avec le dernier film de Jacques Perrin, Les Saisons, bonjour.
Bonjour, et oui Mathieu, l'Europe d'avant, la suprématie des hommes était d'une richesse animale incroyable, presque oubliée. On retourne à l'ère des grandes forêts dans un instant, à la une.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise notre Tête au carré aujourd'hui, préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au carré... Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les promesses de la génétique. C'est donc le dossier dans quelques minutes de l'émission. Arnold Munich et Lise Barnéou, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Arnold Munich, prédire l'avenir en regardant dans nos gènes. Ça, c'est une idée reçue contre laquelle vous avez décidé de combattre. Justement, il y a urgence aujourd'hui à remettre les pendules de la génétique à l'heure.
Je pense qu'il était temps de contribuer à une clarification, parce que l'opinion ou les familles ou les malades sont une cible, une proie. Et cette proie, elle peut devenir très vite celle des enjeux, des lobbies, des intérêts financiers, etc. Qu'est-ce qui peut s'opposer aux appétits financiers des lobbies? La puissance publique, les agences, les ministres, les ministères, ils sont effectivement investis du pouvoir, mais est-ce qu'ils ont toujours l'autorité? Le pouvoir, c'est une chose, l'autorité, c'en est une autre. Et les seuls, à mon sens, qui ont l'autorité pour parler de manière légitime, ce sont les scientifiques. Mmh. Et malheureusement, ceux-là même qui sont investis de l'autorité par l'opinion s'auto-censurent et ne disent pas ce qu'ils ont à dire, par pudeur, par discrétion, par réserve, parce qu'ils ont l'impression que venir à la Tête au carré, c'est se compromettre.
Oh bah dis donc, on ne manquerait plus que ça maintenant.
Mais c'est leur devoir de venir rendre compte à la société de ce qu'on croit avoir compris, des avancées, des avantages, des inconvénients de la science, des progrès et des inquiétudes. Je trouve que les scientifiques devraient davantage prendre la parole, c'est ce que j'ai fait.
Bon, et bien justement, et vous avez raison, pour clarifier effectivement les promesses de la génétique, Lise Barnéou pour Science et Vie, donc vous avez testé votre ADN. Est-ce que vous avez découvert tout un tas de réjouissantes maladies que vous ignoriez jusqu'à présent?
Non, pas plus. Moi, c'est vrai qu'après la publication de mon livre « Médecine tout prédire » chez Belin en septembre dernier, j'ai eu envie d'approfondir la question des tests prédictifs, des tests génétiques accessibles sur Internet, parce qu'ils sont de plus en plus utilisés, même en France. Mais j'avoue que j'ai pas appris grand-chose, si ce n'est que peut-être je ne suis pas vraiment un bon parti génétique, mais on en parlera tout à l'heure.
Vous avez quand même quelques prédispositions certaines maladies. On va en discuter avec vous et avec les auditeurs pour évoquer donc les malentendus de la génétique. Franceinter.fr pour nous rejoindre.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, Les Saisons, le dernier film de Jacques Perrin et Jacques Luzeau, bande-annonce.
L'hiver durait depuis 80 000 ans. À la fin de l'âge de glace, d'immenses étendues forestières envahissent l'Europe, entraînant avec elles un cortège d'animaux sauvages. Ainsi commence l'âge d'or de la forêt. Ainsi commencent les saisons. 20 000 ans de notre histoire commune avec les animaux.
Voilà, donc depuis mercredi sur les écrans, Les Saisons qui nous plongent dans l'histoire animalière de l'Europe depuis 10 000 ans, à l'âge où une immense forêt recouvrait la totalité du continent. Bonjour Stéphane Durand.
Bonjour.
Vous êtes naturaliste, ornithologue et scénariste du film. Et puis à vos côtés, Hervé Kempf, comme tous les lundis, avec notre partenariat avec Reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
On va commencer par une petite minute de critique, Hervé. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, sans trop de flagornerie, si c'est possible?
Eh bien écoutez, ça va être dur parce que j'ai été emballé, tout simplement. Le
film raconte effectivement un âge d'or, c'est celui de la nature en Europe. Effectivement, depuis la dernière déglaciation qui s'est produite il y a à peu près 20 000 ans, eh bien cette déglaciation, la neige et la glace et le givre et le froid qui recouvraient le continent a laissé place à la forêt, une forêt profonde et immense, presque continue de l'Oural au Finistère et où la vie s'est épanouie. Alors après une introduction sobre pendant laquelle cette histoire est rappelée, eh bien le film nous raconte la vie de cette multitude bruissante et grondante entre les couleurs de l'automne, la splendeur de l'été, les frémissements du printemps. On va de scènes touchantes comme la mise bas d'un faon, le combat entre deux ours ou entre deux cerfs pour la domination, la course éperdue de chevaux poursuivis par une meute de loups, les jeux de petits renardeaux.
N'en jetez plus, c'est trop.
Écoutez, c'est le film, c'est tel que moi je l'ai ressenti et je crois que tel que les spectateurs le voient, c'est-à-dire une succession de tranches de vie animales époustouflantes où l'on ne s'ennuie pas une seconde et où le commentaire a le bon goût d'être quasiment absent, nous laissant comprendre seul ce que l'on voit avec émerveillement. Le film se clôt avec l'ascension de l'homme qui défriche la forêt et répand ses chants faisant reculer et souvent disparaître les peuples animaux et les esprits de la forêt. Alors c'est un beau film.
Oui, ben je ne vous ai jamais entendu aussi lyrique que ça, Hervé.
On dirait que Hervé a aimé le film.
Je crois qu'on peut le dire. Mais aussi parce qu'il nous rappelle, au-delà du spectacle, il nous rappelle l'importance de ce qu'on appelle la nature en Occident, dans une époque qui fait mine de s'en abstraire, et ça c'est important après tout. Et aussi un film qui n'est pas à la Walt Disney, mais un film où le souci scientifique est permanent et n'enlève rien au plaisir du spectacle.
Alors Stéphane Durand, comment est né cet aîné de reconstituer l'histoire de la faune européenne comme ça?
Ouais, déjà, je vais réagir à ce que vient de dire Hervé, c'est magnifique. Il n'y a pas grand-chose à dire.
Vous
regrettez
pas d'être venu, j'imagine, bah oui.
Voilà, c'est merveilleux. Comment est né
le
sujet du film? En fait, nous travaillons avec Jacques Perrin et Jacques Clouzot depuis de nombreuses années. Nous avons fait ensemble Le Peuple Migrateur et Océan. Et on a passé toutes ces années à parcourir le monde, à aller aux Galapagos, en Afrique, en Antarctique, dans des contrées toutes plus exotiques les unes que les autres. Et on a eu la chance d'aller dans des endroits où les animaux n'avaient pas peur de l'homme. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Et on s'est dit, est-ce qu'il serait possible de faire la même chose en Europe? Est-ce qu'il serait possible de, chez nous, sur notre territoire, d'avoir une proximité avec une faune abondante et aussi diverse que partout ailleurs? Et force est de constater que, enfin, très vite, le projet a buté sur le fait que l'Europe, c'est quand même le continent le plus pauvre en abondance, en diversité, et le peu d'animaux qui restent fuit dès qu'on s'approche. Et donc, en rencontrant des scientifiques, on s'est rendu compte que c'était possible à la seule condition, exactement, de remonter dans le temps. Voilà. Si on remonte il y a 10, 15 ou 20 000 ans, l'Europe était aussi riche, aussi variée. Ça ressemblait, on dit souvent, le Serengeti européen. Si vous allez en Afrique aujourd'hui, vous voyez tous ces troupeaux de gnous, de zèbres, de girafes et de lions. Eh ben, l'Europe, il y a 15 000 ans, c'était la même chose. Et on a voulu aller inventer une machine à remonter le temps pour aller y jeter un œil.
Et comment est-ce qu'on fait pour filmer des images qui n'existent pas?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Pour tout ce qui est la partie du froid, du début, nous sommes allés dans le nord de l'Europe. En fait, ce qui était Paris à l'époque, il y a 20 000 ans, ce qui ressemblait un peu à la Sibérie, eh ben, on le retrouve aujourd'hui en Sibérie, en Norvège, au Groenland. Donc voilà, en allant au nord de l'Europe, on retrouve les conditions sous nos latitudes, les conditions de l'âge de glace. Et puis comme ça, en parcourant l'Europe, on trouve des bribes. Et c'est ces bribes qu'on a rassemblées pour faire comme un puzzle pour construire le film.
Est-ce qu'il y a des espèces animales ou des écosystèmes que vous n'avez pas pu retrouver justement pour filmer le film? Filmer le documentaire, on va dire.
C'est un... Oui, c'est un film documenté, pas documentaire. Oui, il y a une espèce qui nous aurait beaucoup plu de filmer, c'est l'auroch. L'auroch sauvage, qui est l'ancêtre de la vache.
Il y en a encore aujourd'hui, on en a refait, mais c'est pas du tout les mêmes,
ouais,
c'est ça?
Non, hein, c'est pas tous les mêmes. Ouais. Et nous avions un conseiller scientifique qui s'appelle Jean-Denis Vigne, que vous connaissez bien, et il nous a dit non, prenez pas l'auroch de Haig, parce que c'est vraiment un petit ersatz du vrai auroch qui faisait près de 2 mètres au garrot quand même. C'était un monstre. Mmh. Un monstre qui habitait la forêt pendant des milliers d'années. C'était vraiment l'âme de la forêt. Et là, il n'en existe plus et c'était un peu notre regret.
Montrer ces écosystèmes qui n'existent plus, c'est avouer que l'homme est passé par là. Quel est le message du film Destination des Hommes, du coup?
Alors, bah, écoutez, effectivement, l'homme, dans le film, on a essayé de pas le montrer de façon manichéenne, pas trop négatif. Quand l'homme commence à couper la forêt, qu'il installe, ce qu'on dit dans le film, la naissance de la campagne, elle offre une multitude d'opportunités à plein d'animaux qui profitent de ça pour sortir de la forêt et se rapprocher des hommes. Donc, d'un certain côté, c'est une super chance pour de nombreux animaux. Pour d'autres, comme le roc dont on parlait, que pour les bisons, pour les chevaux sauvages, il a fallu qu'ils reculent ou alors ils ont carrément disparu.
La nature aujourd'hui, elle va mieux qu'il y a quelques années quand même. Ça, c'est un des bons points au fond de ces observations que vous avez pu faire avec le film.
Oui, oui, exactement. On pensait en faisant le film au début que ça allait être une histoire super triste parce que effectivement, au fil du temps, les espèces disparaissent et les milieux sont fragmentés et disparaissent eux aussi. Donc on s'est dit, oh là là, comment on va finir le film si c'est pour juste montrer que tout disparaît et tout s'écroule, quoi. Et en rencontrant donc les spécialistes, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de bonnes nouvelles, mais dont personne ne parle jamais. Il y a énormément d'animaux et de milieux qui reviennent depuis une cinquantaine d'années. Évidemment, le cas emblématique est celui du loup, mais tous les rapaces diurnes, les rapaces nocturnes, les cigognes noires, les cigognes blanches, les loutes, les castors, les chamois, les bouquetins, tout le monde revient. C'est incroyable. Et puis en plus, on les voit de plus en plus près. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Hervé Kempf, après la louange, peut-être un point noir ?
Et oui, et même une grande tristesse, puisque à la fin du film, eh bien, on voit défiler le générique et on voit apparaître le nom des sponsors, et notamment parmi ces sponsors du film, il y a Center Park. Et Center Park projette d'installer un village vacances avec une bulle tropicale, etc., au beau milieu d'une magnifique forêt dans l'Isère, à Roibon, et va défricher. Et je me demande vraiment comment vous avez pu accepter d'avoir un tel sponsor qui est totalement à l'opposé, dont l'action est à l'opposé de ce que je crois vous voulez dire dans ce film.
Voilà, c'était la dernière question avant que vous partiez. Il y a une petite question vacharde.
Merci Hervé.
C'est pas vacharde, c'est une vraie interrogation.
Oui, oui. Alors, quand on a approché les gens de Center Park, le projet de Roibon était encore pas vraiment connu, on ne le connaissait pas. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, mais la réponse de Jacques Perrin, qui produit le film, il le réalise et il le produit, est très claire. C'est que lui, il adorerait ne pas avoir à faire appel à l'argent de Center Park, comme de Veolia ou de Total, dans le cas d'Océan, ou de Rolex. Mais le problème, c'est que, voilà, c'est faire ces films-là, ça prend énormément de temps, c'est des grosses équipes, hein, il y a près de 200 personnes, ça, un an et demi de tournage, et il est impossible avec... sans cet argent-là pour faire ces films. Donc soit on décide de ne pas faire les films, soit on décide d'accepter cet argent tout en étant totalement libre. C'est quand même la condition, on a pu raconter ce qu'on voulait.
Est-ce que Jacques Perrin sera libre de critiquer le projet de parc de Roibon ?
Il faudra lui poser la question directement. Voilà. On veut pas mettre Stéphane Durand en difficulté. On posera la question directement à Perrin.
Et cet argent qui a aussi servi Axel à faire quelque chose de sympathique. Beaucoup de produits autour du film et une application qui est gratuite et que je trouve bien faite, qui permet d'apprendre de manière ludique un peu tout ce qui s'est passé sur ces 20 000 ans pour les écosystèmes européens. Ça, c'est téléchargeable gratuitement.
Ça s'appelle Morphosis, voilà, cette application. Merci Stéphane Durand.
Merci à vous.
Merci Hervé et reporter.net qu'on retrouve lundi prochain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, et pour rester dans le thème du film d'ailleurs, l'écureuil roux d'Europe qui laisse petit à petit sa place à son homologue gris venu des États-Unis depuis les années 30, et ce à cause de l'homme, dans une étude parue la semaine dernière. Des chercheurs londoniens ont prouvé que l'expansion de l'aire de distribution de l'espèce grise était due à de nombreuses vagues d'introduction d'origine humaine. Les profils génétiques analysés reflètent directement l'historique de ces introductions qui ont débuté dans les années 30 en Angleterre et sont restées légales jusqu'en 2012 en Italie. Des chercheurs américains viennent de créer le premier tissu moléculaire à la manière d'un véritable textile. Ces chercheurs ont entrelacé régulièrement de longues molécules organiques pour former un textile inédit aux propriétés physiques exceptionnelles. À la fois solide et flexible, ce tissu nommé COF est fabriqué à l'aide de réactions chimiques en chaîne. Et puis les scientifiques babyloniens calculaient sans doute les premiers mouvements du Jupiter 1400 ans avant les Européens, en examinant plusieurs tablettes babyloniennes en argile restées des années indéchiffrables. Une équipe d'historiens a montré que les scientifiques de Mésopotamie, l'actuel Irak, utilisaient des calculs géométriques pour décrire la position de Jupiter entre -50 et -350 avant Jésus-Christ, une méthode de calcul que l'on pensait née en Europe au XIVe siècle. Allez, les promesses de la génétique dans un instant, le dossier de la tête au carré, juste après la Lune et l'Impératrice. Vous êtes sur France Inter, bon après-midi. l'impératrice sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Les malentendus de la génétique, donc thème de notre dossier cet après-midi. Mes invités, le pédiatre, généticien et professeur Arnold Munich, ma consoeur Lise Barnéou pour Science et Vie, et vos messages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Arnold Munich, vous êtes donc directeur du département de génétique au CHU Necker Enfants Malades, cofondateur de l'Institut Imagine, et donc chez Plon, ce livre qui arrive programmé mais libre, les malentendus de la génétique. Dans cet essai, donc, vous revenez sur tout un tas de fantasmes liés aux promesses justement de cette discipline, en tirant la sonnette d'alarme face aux raccourcis simplistes très souvent. Il faut d'abord rappeler que c'est une science jeune, la génétique, hein.
Oui, on peut dire que les premiers concepts ont été fondés par Mendel en 1865, c'était il y a un siècle. Il a compté les grains de maïs et les petits pois, et c'est là qu'il a fondé ce qui reste les fondements de la génétique d'aujourd'hui. L'essor extraordinaire, c'est quand on a pu séquencer le génome.
Oui. Alors ça, c'est encore plus récent.
Formidable, c'était il y a une vingtaine d'années. Et je dirais qu'il y a une prouesse supplémentaire, c'est qu'on est passé de plusieurs milliards de dollars pour séquencer un génome à 1000 euros pour séquencer le même génome. Donc vous voyez le changement d'échelle.
Donc il y a une accessibilité maintenant sur la connaissance aussi individuelle du génome humain.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être bientôt en situation de scruter dans nos gènes. C'est bien et c'est pas bien. C'est de ça qu'on va parler.
On va parler avec vous d'ailleurs des tests prédictifs, Lise Barnier. Combien ça vous a coûté, vous, pour avoir justement votre décryptage
500 euros.
500 euros, oui, voilà. Ça reste une bonne petite somme quand même.
Ça reste une bonne somme.
Mais ça va devenir de moins en moins cher.
Exactement. Et c'est effectivement ce qui se passe. De plus en plus de personnes pratiquent des tests directement via Internet.
C'est ça. Arnold Munich, qu'est-ce que ça veut dire séquencer le génome humain?
Ça veut dire égrener un à un tous les constituants de l'ADN. Il y a 3 milliards de constituants électroniques, 3 milliards. Répartis en 23 paires de chromosomes, ça fait environ 35 000 gènes.
Ouais. On a tous 35 000 gènes.
35 000 gènes, mais ce qui est extraordinairement important à comprendre pour les auditeurs, pour vous aussi Mathieu, c'est que on n'a pas les uns un bon génome, les autres un mauvais génome. On a tous tout plein d'anomalies dans notre génome. On a une centaine d'anomalies, c'est ça que nous a appris le...
Donc dès la naissance, on est avec ces
vous
anomalies.
Vous arrivez parce que vos parents en étaient porteurs et qu'ils vous l'ont transmis. Et parfois, il y a des incidents qui arrivent. Mais on a tous, au moins, maintenant qu'on peut le dire, puisqu'on séquence, on a une centaine d'anomalies. Et on ne les exprime pas. Donc c'est vous dire combien est illusoire la médecine prédictive. Parce qu'on peut très bien avoir un variant et ne jamais l'exprimer.
Ouais, et pourquoi, alors justement, il n'y a pas ce passage, on va dire, du off au on?
C'est très intéressant, cette question. D'abord, si vous avez un parent qui porte, qui vous transmet un caractère, mais que l'autre parent transmet un caractère normal, tout va bien. Mais si, au contraire, vous avez un variant qui est dubitatif, mais qu'il ne s'exprime pas parce qu'il est réduit au silence, tout ira bien aussi. Donc le problème de la médecine prédictive, ce pourquoi je m'élève avec beaucoup de collègues qui ont le courage aussi de leurs opinions, comme moi, contre cette escroquerie, cette fumisterie qu'est la médecine prédictive, c'est que, en réalité, il s'agit d'une probabilité faible de voir son risque accru de quelques pourcents. Donc le facteur multiplicatif est extrêmement faible, premièrement. Et la deuxième raison de se méfier de ces tests, c'est que c'est un résultat en population générale. Ça ne vous apprend rien sur votre statut. C'est comme si je me postais à la sortie de votre bureau de vote et qu'en regardant la moyenne des suffrages du bureau de vote, je prédis ce que vous avez voté.
Pourtant,
vous,
c'est
Mathieu.
La promesse qu'on nous fait quand on fait un test prédictif, Lise Barnier. C'est d'ailleurs une sorte de carte d'identité vraiment individuelle, là. Hein.
Oui, c'est vrai.
L'interprétation est ne peut être que collective. Et l'interprétation est fausse.
Disons que la médecine prédictive permet de diviser en sous-groupes la population et nous donne en fait un indicateur du sous-groupe, mais pas à l'échelle 1.
On peut demander aujourd'hui son séquençage complet de génome en France, Arnold Munich, ou pas?
Non, on ne peut pas le demander, c'est un examen génétique qui est soumis aux lois de bioéthique et il faut que ce soit l'objet d'une prescription médicale, donc que ce soit justifié. Cela dit, rien n'empêche un gogo, un pigeon, d'envoyer de l'ADN, de la salive, dans un laboratoire étranger qui va vous donner, à titre onéreux, des résultats totalement ininterprétables, je vous rassure tout de suite.
C'est ce qu'on va voir avec Lise Barnier.
Qui sont rentrés comme les plaquettes mésopotamiennes.
La différence, c'est que je n'ai pas fait l'entièreté de mon génome. Moi, j'ai uniquement analysé quelques points dans mon génome.
Après, il faudra des archéologues mésopotamiens pour déchiffrer ça.
Exactement. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le séquençage et les informations, il y a le risque de l'interprétation surtout, qui est vraiment crucial.
Tout est écrit dans notre génome, Mathieu, mais la liberté nous est donnée. Le génome, c'est pas une boule de cristal, c'est pas un horoscope. Il y a des tas de variations qui sont silencieuses, neutres, ou même qu'on comprend pas.
Donc c'est tout sauf un déterminisme. Hein.
C'est toute la liberté nous est donnée. Qu'on arrête de se retrancher à tout moment derrière notre génome. J'ai un copain généticien, dont je tairai le nom, parce qu'il est fort célèbre, qui s'est amusé à séquencer son propre génome.
Ouais.
Et il est venu me voir l'année dernière, mais tu sais Arnold, comme tu me vois là, je devrais être mort.
Ouais.
Parce que j'ai séquencé mon génome et j'ai une mutation.
Ouais,
voilà,
c'est ça.
Je devrais être mort. Voilà, ça, je vous donne ça à la réflexion.
Alors justement, on va écouter l'extrait d'un documentaire, le décryptage du génome humain, sur un exemple intéressant quand même autour de la maladie de Parkinson.
Le génotypage permet d'expliquer certaines caractéristiques étranges, telles que le dégoût pour l'amertume des choux de Bruxelles. Mais lorsque Jay Adelson a voulu connaître la probabilité qu'il avait de développer un jour la maladie de Parkinson, il a constaté que le résultat était loin d'être limpide.
Le calculateur de probabilité considère que j'ai environ 60% de chances de développer la maladie de Parkinson. Mon père en est atteint. Mais ce n'était pas le cas de ses parents ni de ses grands-parents. Bien que cette caractéristique génétique soit héréditaire, cela ne veut pas nécessairement dire que je vais développer la maladie. Je me suis donc longtemps interrogé sur le sens à donner à ces résultats.
Alors, Arnold Munich, on est dans un exemple extrêmement intéressant, oui. Là, parce qu'il y a déjà des questions éthiques d'ailleurs qui se posent sur le fait même d'ailleurs de faire ces tests avec des informations qui pourraient laisser penser que la maladie de Parkinson n'est pas loin.
Mais vous voyez, Mathieu, c'est un très bon exemple pour commencer l'émission, en réalité. Parce que là, on n'est pas dans la médecine prédictive. L'orateur a dit quelque chose de très important, il a dit « mon père en était atteint et pas mes grands-parents ». C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la médecine prédictive qui concerne un sujet bien portant qui veut s'assurer qu'il va vivre 120 ans. On est devant un conseil génétique, un apparenté à risque car le papa est porteur. C'est complètement différent. Vous ne pouvez pas traiter de la même manière et sur le même ton le type bien portant qui fait le rêve prométhéen de vivre 1000 ans et le fils d'un monsieur qui a le Parkinson ou la chorée d'Huntington, parce que le dernier, lui, il est à risque et on peut comprendre qu'il fasse l'examen génétique parce qu'il présente un risque de transmission de son caractère.
Alors,
est-ce que vous voyez bien la différence?
Oui, on comprend. C'est bien, effectivement. Oui. Alors, dans le cas justement où ce monsieur apprend qu'il a lui aussi des prédispositions pour Parkinson, mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce qu'il y a aussi une chance que ça se déclare pas non
voilà.
plus.
Voilà. D'abord, il y a la question de savoir quand va se déclarer la maladie et si elle va se déclarer.
Mais ça, on ne peut pas le savoir.
On ne peut pas le savoir. Donc, on a fait le diagnostic de cette possible prédisposition A, mais ça ne dit rien du pronostic. Le diagnostic moléculaire est une chose, le pronostic en est une autre. Personne ne peut dire quand va se déclencher cette anomalie. Et c'est la raison pour laquelle les lois de bioéthique en France tentent à freiner les tests, lorsqu'on ne peut pas assortir un diagnostic de mesures thérapeutiques de nature à enrayer l'évolution.
Ouais.
C'est du bon sens.
Ouais. Mais alors, comment on fait avec une personne comme ça qui a une prédisposition, qui a des antécédents familiaux? Parce que cette personne, elle va quoi, vivre toute sa vie avec cette épée de Damoclès sur la tête,
hein, voilà.
Jusqu'à ce que ça arrive enfin. Et ça peut conditionner aussi un mal-être personnel.
Voilà. Absolument, vous avez absolument raison. Quand on a une riposte thérapeutique, et j'espère qu'on en aura bientôt, il n'y a pas de question, il faut dépister pour traiter tôt, éventuellement en présymptomatique. Mais quand on ne peut pas faire cela, il subsiste quand même des demandes, au terme d'entretiens avec des psychologues, qui sont des gens merveilleux, en particulier à la Salpêtrière. Il y a une équipe formidable qui entoure les généticiens de la Salpêtrière, et qui se garde bien de réduire le sujet à son ADN. Et qui discute pendant des heures et des heures avec la famille, avec le sujet, de manière à savoir ce qu'il ou elle veut savoir exactement. Et au bout de ces heures d'entretien, et j'aime cette médecine française, cette médecine pétrie d'humanité, cette médecine à la française, où on ne réduit pas le sujet à une molécule d'ADN, et bien au terme de cet entretien, qui dure parfois des heures, le sujet peut dire « Écoutez docteur, je veux vraiment le savoir parce que je vais avoir un enfant ». Et je voudrais savoir si mon enfant risque de transmettre le caractère. Eh bien, on a réussi, la génétique a permis aujourd'hui à des couples à risque de ne pas avoir d'enfant malade parce qu'on va, lors d'un diagnostic préimplantatoire, par progression médicalement assistée, s'assurer que l'enfant à naître a assurément reçu le chromosome indème, assurément indème, parce qu'il vient d'autres parents.
Donc là, on voit
ça,
vraiment,
c'est un progrès.
Et ça, ce sont les vertus de la génétique.
Ça, c'est un progrès.
C'est pas la face sombre,
non.
Absolument. Il y a
voilà.
aussi
Donc il n'y a pas de traitement, mais il y a une prévention pour des couples à risque ou pour des familles à risque.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre dossier avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
Résultat du test de ADN, Becky.
Ne me faites pas languir.
Soyez sans crainte. Le résultat du test de ADN est...
Oui?
Ici, dans ma mère.
Oh mon Dieu.
Becky.
Maintenant que je connais les résultats du test d'ADN, je ne sais plus quoi penser.
Voici une copie du document confidentiel sur lequel apparaît le résultat de votre test de ADN.
Oui.
Regardez, le résultat du test est ici, clairement caché sous mon doigt.
Voilà, la médecine prédictive façon le cœur a ses raisons pour parler justement de nos gènes et des malentendus de la génétique avec Arnaud Munich à l'occasion de la sortie de ce livre chez Plon, programmé mais libre. Les messages des auditeurs, Arnaud Munich, Larry nous dit ceci, la médecine prédictive ne permet de prédire qu'une seule chose, les bénéfices croissants de l'industrie du diagnostic, mais cette industrie est-elle encore de la médecine ?
Je confirme, il a bien raison votre auditeur. Non, c'est pas de la médecine, parce que la vraie médecine, c'est pas les médecines inhumaines qu'on vient d'entendre dans cette bande-annonce, c'est la médecine qui accompagne, qui prépare le sujet lors de consultations de génétique dédiées à cet effet, et qui explique que le diagnostic est une chose et que le pronostic en est une autre. Mais c'est très intéressant la question, parce que ça montre que le vrai défi pour notre génération et pour la suivante, c'est de rester humain. C'est-à-dire de faire encore et toujours de cette science un usage humain.
Enfin, là, on voit le business surtout.
Mais oui, mais c'est pour ça que ces tests sont interdits en France. On ne peut pas le faire en dehors d'une consultation, avec une restitution, un rendu, toujours dans le cadre d'une consultation. C'est pour ça que je mets en garde tout le monde, tous les auditeurs, les auditrices, contre ces tests qui seraient faits ici, dans notre pays, envoyés à l'étranger, est strictement ininterprétable et qui ne vont faire que augmenter l'anxiété et générer des carterons d'hypochondriaques.
Alors, bah justement, on a une journaliste avec nous qui s'appelle Lise Barnéo, qui travaille pour Science et Vie, qui n'a pas l'air totalement anxieuse après le livre entier qu'elle a reçu à son sujet, suite à un test sur votre ADN. Apparemment, vous allez très bien, même si vous avez des prédispositions pour le diabète de type 2, pour la maladie cœliaque, pour le cancer du sein.
Tout un tas de choses pas très jolies.
Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, parce qu'il y a des centaines de sites, en fait.
On peut vraiment alors il est recensé une centaine de sites qui vendent des tests relatifs à la santé sur Internet. Oui. Moi, j'ai pas réussi à en voir autant. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont pas traduits en anglais. Et puis l'autre difficulté, c'est de trouver des sites qui distribuent en France, parce que comme l'a dit Arnaud Munich, en France, c'est interdit non seulement de commercialiser, mais aussi de réaliser ces tests. On est passible d'amende. Et donc, moi, j'ai trouvé une entreprise slovène qui, mon choix s'est porté sur cette entreprise parce que c'était aussi relativement sérieux, adossé à un laboratoire de recherche, un laboratoire d'analyse en Italie, et puis que ça donnait aussi des données sur la génétique récréative, par exemple le type de cire d'oreille ou le goût ou les couleurs des yeux, et ça, c'est vrai que c'est toujours amusant d'avoir ce genre de détails.
Donc là, en l'occurrence, ça s'appelle Gene Planet. Vous a proposé de tester votre risque pour 19 maladies et votre réponse à 6 médicaments, et puis donc tout un tas de particularités assez amusantes comme votre disposition à éliminer le café ou vos capacités sportives, tout ça, donc on l'a dit tout à l'heure, pour 500 euros, un mois d'attente après avoir craché dans un tube, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, résultat, vous recevez ce bouquin,
c'est
Art de Musique, c'est un très beau livre relié.
De pages,
on voit qu'ils ont de l'argent parce que c'est très bien fait,
coloré. Voilà. Avec une première double page où on voit toute une série de pastilles rouges et vertes.
Oui.
Et à vrai dire, moi, ma première réaction, ça a été d'être très étonnée de voir que je présentais un surrisque pour le cancer de la prostate.
Oui. Il y avait un petit problème
de départ.
Donc
là, je me suis dit, aïe, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc j'appelle la compagnie et on m'explique que c'est uniquement un problème administratif.
Ça commence mal déjà sur la crédibilité du test. Bon, j'aurais pas à dire.
De fait, ça remet pas en cause les analyses parce que ils ont analysé une centaine de marqueurs génétiques, ces minuscules variations qu'on trouve sur notre ADN, et aucun de ces marqueurs ne se trouve sur nos chromosomes sexuels, ce qui aurait permis de se rendre compte que je n'ai pas de chromosome Y.
Ouais.
Donc c'était uniquement un problème de croix mal placé. Un mois plus tard,
donc, pas de problème de prostate.
Non, on me renvoie un nouveau livre avec cette fois-ci mon risque pour le cancer du sein, que je n'avais pas eu auparavant.
Alors donc il y avait ces pastilles rouges qui sont les plus inquiétantes en fait.
Alors je vous montre, voilà, on a premier coup d'œil, on se rend compte qu'il y a un petit peu plus de pastilles rouges que de pastilles vertes.
Donc c'est mal barré pour
vous. C'est mal barré, voilà. Ouais. Bon, du coup, moi j'ai voulu me concentrer sur les pastilles les plus rouges, les pastilles rouges foncées qui donnent un surrisque le plus important par rapport à la population générale, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas mon risque individuel, c'est mon risque par rapport aux données statistiques de la population générale. Et je me suis d'abord penchée sur le diabète de type 2, pour lequel on me donnait 40% de risque de développer un diabète de type 2 au cours de ma vie, ce qui est quand même beaucoup, voilà, contre 25% en population générale.
Ouais.
Donc je me suis demandé comment ils étaient parvenus à me donner ce chiffre. Et ce qui est bien aussi avec cette compagnie, c'est qu'ils nous donnent vraiment tous les marqueurs analysés. Et donc je découvre qu'ils ont analysé 9 marqueurs, 9 changements de lettres sur mon ADN. Il en existe environ 50 dans la littérature. Je me suis plongée dans la littérature de la génétique du diabète de type 2. Donc ils en ont choisi 9 sur 50. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces 9-là n'augmentent finalement le risque de 1,1, 1,3 au maximum. C'est-à-dire que d'un point de vue clinique, c'est assez ridicule comme augmentation de risque, sachant que si je suis en surpoids, inactive, ou si j'ai des antécédents, le risque est bien plus augmenté que ces facteurs génétiques.
Ouais. Donc là, c'était pour le diabète de type 2.
Diabète
prédisposition
de type 2.
Cancer du sein également, et maladie cœliaque.
Voilà. Alors le cancer du sein, c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé cette enquête, parce que je me suis rendu compte que l'information donnée était très très approximatif, c'est vraiment le mot. Le cancer du sein, c'est quand même une des maladies pour lesquelles la médecine prédictive a un vrai rôle. On connaît deux marqueurs qui prédisposent avec un risque très élevé à cette maladie-là. On peut avoir 80% de risque de développer un cancer du sein quand on est porteur de ces mutations. Et on connaît aussi une manière de prévenir cette maladie, soit avec une surveillance rapprochée, soit éventuellement avec la chirurgie. Donc je me suis dit, bon, je suis un suriste, tiens, voyons voir quel est mon statut par rapport à ces deux mutations. Et là, je découvre qu'ils n'ont pas analysé ces deux mutations pourtant majeures. Donc coup de fil à la compagnie et on m'explique qu'ils n'ont pas le droit d'analyser ces deux marqueurs parce qu'ils n'ont pas le droit de donner par courrier une information aussi anxiogène, 80% de risque de développer un cancer. Ouais. Moi, je suis d'accord avec eux, j'aurais pas aimé recevoir ça par courrier. Mais en revanche, je suis assez catastrophée de me rendre compte qu'ils ne précisent pas l'énorme approximation, donc on me donne un risque de 18,32% d'ailleurs, admirer la précision, alors que si je suis porteuse de cette mutation, je pourrais avoir 80% de risque.
Alors, Arnold Munich, un commentaire, parce qu'évidemment, on voit quand même le travail de la journaliste là, qui est allé loin dans le déchiffrage aussi des données renvoyées par cette compagnie, ce que peut pas faire évidemment Monsieur Tout-le-Monde non plus. Comment on peut réagir face à un tel travail? Il faut tout de suite le jeter à la poubelle, ce bouquin, ou pas?
D'abord, vous avez fait un vrai travail d'investigation professionnelle et pour ça, je vous remercie.
Merci.
On vous remercie tous parce que c'est important de le faire et que ce soit aussi une parole comme la vôtre qui le dise. Il faut répéter et répéter encore que les gènes de prédisposition au cancer, ça existe dans des familles à risque. Quand on a plus qu'un cancer dans une famille, 2-3 cancers dans des apparentés, il faut aller consulter dans des consultations de conseil génétique, même quand on est une jeune fille. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Et il y a deux gènes, elle a raison, BRCA1, BRCA2, qui sont des gènes qui ont un poids spécifique gigantesque dans la survie du cancer. Mais ceci, c'est du conseil génétique pour des apparentés à risque. C'est comme l'histoire du Parkinson tout à l'heure, ou de la chorée d'Huntington. L'affaire de la médecine prédictive, c'est tout à fait différent. C'est un garçon en pleine forme, comme vous, qui n'a aucun antécédent, ni personnel, ni familial, et qui s'imagine que l'ADN, c'est la boule de cristal. Ça, c'est faux. Tandis que, aller consulter quand on a plusieurs apparentés à risque de cancer, parce qu'ils ont fait un cancer, de cancer du côlon ou du sein, ça, c'est de la bonne médecine.
Mais est-ce qu'elle aurait pu le découvrir, Lise Barnéou, dans ce travail-là?
Ils n'ont pas testé les deux jeunes majeurs.
Donc, c'était pas possible.
Mais non.
Ouais. Donc, clairement, ça sert à rien. Sauf à s'inquiéter pour rien, au fond.
Oui. Voilà, bon, moi, ça ne m'a pas particulièrement inquiété.
On pouvait offrir ça à un hypochondriate pour son anniversaire, ce sera parfait pour entretenir ses symptômes.
Sûr, Et ça va faire tourner la caisse de sécu, hein. Ça va vous coûter très cher, Mathieu.
Bon, peut-être en contrepoint, les défenseurs de cette médecine prédictive soulignent quand même que les maladies les plus importantes dans nos sociétés sont des maladies chroniques, insidieuses, qui mettent plusieurs années avant de se déclarer. Et si un jour on a les moyens de pouvoir vraiment en amont de ce processus d'intervenir et donc d'interrompre le processus, soit de le retarder, ça permettrait d'éviter bien des complications, des décès.
Non, mais l'idée est belle, d'argent. Mais elle est fausse.
Aujourd'hui,
toutes les belles idées sont pas vraies.
Aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces maladies-là sont tellement des maladies multifactorielles que les facteurs génétiques influencent peu. Mais après, il y a quand même des études qui cherchent aussi à inclure non seulement les facteurs génétiques, mais d'autres marqueurs prédictifs qui sont des marqueurs environnementaux. Il y a notamment beaucoup d'études qui font des suivis en continu avec un suivi, une mesure de l'exposome, c'est-à-dire des facteurs chimiques de l'environnement d'un individu, qui essaye aussi de mesurer en continu le sommeil, l'activité physique, et qui cherche comme ça une multitude de facteurs prédictifs, pas seulement les gènes, mais aussi des facteurs environnementaux qui permettraient de prédire le passage de l'état sain à l'état malade. Et ça, c'est peut-être quand même un
Moi, je trouve que c'est du Molière. C'est du Molière, parce que évidemment que c'est du Molière. C'est un peu triste, mais c'est du diafoirus, tout ça. C'est sûr que si on est en surpoids, on a plus et qu'on fait pas de sport, on a plus de risque de faire un diabète de type 2 que si on est mince comme vous êtes et que vous êtes sportive. Donc, par conséquent, on enfonce des portes ouvertes et on part des atours de la science, quelque chose qui n'a rien de scientifique.
Ouais. Donc c'est de l'escroquerie, quoi. Il faut dire les choses.
Ça s'appelle des avions renifleurs de la biologie.
Ouais. Et comment vous expliquez l'essor et le succès partout dans le monde, quand même, de ces tests de prédiction génétique sur Internet, hein?
Parce que les gens ont soif de savoir, ils ont peur du lendemain, ils ont peur de l'avenir, et que les scientifiques...
Mais ils ont encore plus peur, là, pour le coup,
mais
non?
Mais il faut des paroles comme celles qu'on a aujourd'hui pour démentir ces propos et donner enfin une parole légitime.
Rokia Traoré sur France Inter. Dossier consacré au malentendu de la génétique avec mon invité Arnold Munich et puis Lise Barnéot, auteur d'un livre qui s'appelle Médecine tout prédire. C'est chez Belin, comprendre vite et mieux. Et pour illustrer également notre discussion, le cas d'Angelina Jolie, c'était en 2013.
Le risque d'Angelina Jolie de développer un cancer du sein est peut-être descendu à 5% après l'ablation de ses seins, mais l'actrice n'a pas encore terminé toutes ses opérations préventives. Elle révèle dans le New York Times qu'elle a un gène BRCA1 anormal, qui signifie qu'elle a toujours 50% de risque de développer un cancer des ovaires. Angelina a décidé de subir la double mastectomie dans le secret d'abord, parce que ses risques de cancer du sein étaient de 87% et la procédure était plus complexe. Mais maintenant, l'actrice compte continuer à réduire les risques de maladie en se faisant enlever les ovaires. Brad décrit sa décision comme absolument héroïque et bien qu'Angelina ait décidé en privé de se faire enlever les seins, son opération sur ses ovaires aura le soutien de beaucoup.
Ah, vous apprécierez les commentaires de Splash News TV pour nous parler du cas Angelina Jolie. Arnold Munich, un commentaire sur le cas Angelina Jolie, parce qu'après justement l'annonce de cette opération, je crois que ce sont les consultations qui ont explosé. C'était une bonne chose de s'en faire l'écho?
Je pense que c'est une bonne chose parce qu'elle était la fille d'une dame qui avait elle-même été opérée d'un cancer. Il y avait d'autres cas dans la famille. Donc, on n'est vraiment pas dans les tests génétiques. Je voudrais vraiment que les auditeurs, les auditrices comprennent qu'on n'est pas dans les tests prédictifs qui ont été commentés tout à l'heure. On est dans le conseil génétique d'apparenté à risque. Et là, c'est de la bonne médecine, c'est la prévention des cancers, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Elle va autrement développer le cancer dans 90% des cas. C'est la seule mesure préventive, logique et fondée.
Lise Barnéou.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Et en fait, ce bénéfice de la donc médecine prédictive ou
préventive.
Bon, pour moi, médecine prédictive, je le prends avec une définition large, c'est-à-dire de dire avant que les symptômes arrivent, c'est-à-dire que la personne est.
Non.
Je suis d'accord qu'elle est en parenté à risque.
Je m'emploie justement à mettre un peu de clarté là-dedans. La médecine prédictive, c'est un concept qui a été lancé dans les années 80.
Là, c'est la prévention sur son cancer.
La médecine prédictive, c'est des sujets qui n'ont aucun antécédent, ni personnel, ni familiaux, et qui s'imaginent qu'ils vont ils vont arriver à dépister tous les risques qu'ils encourent. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est chez une apparentée à risque. C'est pas de la médecine prédictive. Elle a 99% de risque de développer un cancer.
80.
Ou 87, je ne sais rien. Non, s'il vous plaît, je voudrais vraiment utiliser cette opportunité pour bien faire comprendre les choses.
On vous a bien compris, je crois, Arnold Munich. Il y a ce courriel d'Arnaud qui nous dit « Je suis en train d'écouter votre émission. Ma femme se fait opérer pour une ablation de l'estomac suite à un risque génétique avec plusieurs cas de cancer de l'estomac dans sa famille. Êtes-vous en train de dire qu'il n'y a pas raison d'opérer ?» Ben non, justement.
Bien sûr que si, c'est la même chose. C'est-à-dire que nos collègues médecins et chirurgiens français sont plein de bon sens, ils font pas n'importe quoi. On est un grand pays qui a une très bonne médecine. S'il y a des chirurgiens qui opèrent cette dame, c'est à titre préventif pour éviter qu'elle tombe malade. C'est une bonne action, il s'agit d'une forme héréditaire, génétique, à transmission dominante, d'une génération à l'autre, d'un cancer. Et la prévention, c'est malheureusement la gastrectomie.
Jacques nous dit, votre invité peut-il avoir la même opinion sur les tests de paternité ?
Ils sont interdits en France, je vous le rappelle. C'est la loi de bioéthique depuis 2004. C'est reconduit à chaque révision.
Pour leur manque de fiabilité aussi, ou pas ?
Non, c'est parfaitement fiable. Mais c'est seul le procureur de la République peut ordonner une recherche de paternité. C'est tout.
Pour éviter le trouble social.
Mais quand il nous arrive d'observer des fausses paternités dans les tests génétiques, on se garde bien de les annoncer.
Thomas nous dit, on a bien compris qu'il était pour l'instant impossible de savoir quand ou même tout simplement si une prédisposition allait s'exprimer. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour ce sera vraiment possible avec précision ?
Je me hasarde pas là. Je sais pas. Ouais. Vraiment, je sais pas. Je préfère dire que je ne sais pas. J'en doute. Franchement, j'en doute.
En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est qu'on s'en sortira pas en analysant uniquement les gènes. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on arrive, il y a trop de facteurs et puis ils influencent que très faiblement la plupart des maladies. Donc, si on veut un jour prédire les maladies, il faudra se tourner vers d'autres facteurs.
C'est ça, avec des choses ultra complexes, parce que là, on parle de la génétique
et l'environnement.
On évoque aussi de l'épigénétique régulièrement avec l'influence de l'environnement sur nos gènes. Voilà. Donc, il faudrait mettre tous les ingrédients. Jean nous dit, dès qu'on évoque la génétique, les esprits chagrins lui opposent la liberté, le déterminisme existe, mais ce n'est pas un déterminisme sur le destin ou le chemin, c'est uniquement un déterminisme sur les moyens génétiques que la vie nous donne. Il faut rester libre de flinguer ou d'optimiser ses moyens, ses aptitudes parfait. Naturelles.
Pas mal.
C'est pas toujours facile quand même de le faire. Les sociétés d'assurance, nous dit Christophe, ou les mutuelles, sont-elles bien conscientes que les gènes ne nous prédestinent pas?
Oui, alors il y a deux problèmes avec les assurances. C'est d'abord, elles ont peur que leurs clients utilisent ces données pour souscrire du coup à des contrats spécifiques en fonction de leur risque. Et puis l'autre problème, c'est que les assureurs pourraient demander ces résultats pour eux changer les tarifs. On perdrait le principe de solidarité. Mais si, certains pays ont instauré cette obligation.
Mais pas en France, en tout cas.
Non, en France,
c'est interdit.
En Angleterre, au-delà d'un certain montant, il faut communiquer les données génétiques.
Incroyable. Avec tout le manque de fiabilité, justement, de ces tests.
Bien sûr.
Ouais. Quand vous avez ces familles, Arnold Munich, qui arrivent chez vous à Necker, par exemple, vous avez vraiment le sentiment qu'il y a trop de promesses ou d'espoirs qui sont basés sur la thérapie génique en particulier, et que là, vraiment, il y a besoin à chaque fois d'informer les familles auxquelles vous avez affaire?
Merci d'arriver à ce point, parce que c'est là qu'il y a des progrès importants dans la génétique. On a parlé de la prédiction, on a parlé de la prévention, du conseil génétique, mais aujourd'hui, il y a des avancées dans les thérapeutiques. La thérapie génique n'est pas la panacée universelle, c'est une riposte dans quelques maladies, les maladies du sang, l'histoire de la drépanocytose récemment, les bébés bulles un peu avant, quelques bonnes nouvelles du côté des maladies des yeux. Mais sachez que jamais la thérapie génique ne soignera toutes les maladies génétiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à l'identification des mutations dont on a parlé, au séquençage du génome, on sait maintenant ce qu'ont nos patients, ce qu'ont nos enfants. Et savoir de quoi ils souffrent, c'est le préalable pour lancer des essais cliniques. Ouais, et oui, il y a des essais cliniques, des essais de médicaments, de thérapies cellulaires. Par conséquent, il y aura de plus en plus d'essais cliniques et de thérapeutiques des maladies génétiques dès lors qu'on sait enfin de quoi souffrent nos enfants. Et c'est ça le truc très important que je voudrais dire, si on a encore quelques secondes. C'est que l'essor du séquençage a permis de découvrir la diversité des maladies qui nous frappent. Pour un seul symptôme, qu'on soit autiste, retardé mental, épileptique, il y a des centaines de gènes différents. Mais si on ne fait pas le tri entre ces gènes, jamais on pourra lancer des essais cliniques. Aujourd'hui, si on peut lancer des essais cliniques de médicaments, c'est bien parce qu'on a stratifié les maladies par sous-groupes homogènes. On en a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est un préalable. Et je suis très optimiste dans les thérapeutiques de demain, géniques peut-être, médicamenteuse, sûrement.
Ouais. Dans quel cas vous demandez le séquençage du génome humain?
Le séquençage du génome humain, on ne le demande pas parce que c'est un examen de recherche, mais on a mis au point, à Imagine, des mini-séquençages des gènes causant les maladies, causant ces signes d'appel, et on reséquence dans le cadre de l'hôpital, avec l'aide de l'Institut, parce qu'on est dans un outil de santé, de diagnostic, on reséquence ce qui est connu. Et on arrive à des... Vous comprenez cela ou c'est compliqué?
Non, justement, et la question que j'avais envie de vous poser, c'est par rapport à ces maladies rares dont on ne connaît rien précisément. Alors,
on commence, on ne connaît pas rien. Quand un enfant a un symptôme, on commence par tester à l'hôpital les gènes connus pour donner ce symptôme. Ça, c'est du ressort de la médecine et de l'hôpital. Mm-hmm. Quand ceci est fait, ou bien il y a des essais cliniques parce qu'on a trouvé le diagnostic, tant mieux, ou bien on n'a pas de diagnostic, et ça part à ce moment-là vers les équipes de recherche. Mais c'est très important de passer par là, parce que les chercheurs ne veulent plus faire le travail des hôpitaux. C'est à l'hôpital, universitaire en particulier, de faire le travail de diagnostic, et quand les diagnostics sont pas connus, ça passe chez les chercheurs. Et grâce à cela, il y a de plus en plus d'essais cliniques. Mais c'est un passage obligé. Ça, c'est une avancée très importante. Il y aura d'autant plus de thérapeutiques des maladies génétiques de demain, qu'on aura de meilleurs et de plus précis diagnostics aujourd'hui. Ouais.
En tout cas, ce qu'on entend bien, un homme unique, c'est que attention, prudence quant aux promesses de la thérapie génique. On a des bons résultats, mais on n'y est pas encore.
Je ne veux pas stigmatiser la thérapie génique. Je pense que vraiment, la déception d'une promesse non tenue, c'est la double peine. C'est la maladie et en plus, la déception qu'une promesse n'a pas été tenue. Il faut dire que ça avance, il ne faut pas promettre la guérison. Ça avance, pour autant, on n'est pas absolument certain du délai ni du type de thérapeutique. Ouais.
Allez, dernière question, Pierre. Utilisation des probabilités par les compagnies d'assurance, Lise Barnéo.
Oui, c'est vraiment très complexe. Et effectivement, ils se basent sur des modèles qui n'existent pas, c'est-à-dire on ne sait pas comment les différents facteurs génétiques interagissent entre eux pour amener à une augmentation de risque. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils additionnent tous ces facteurs de risque. Or, on sait très bien qu'il y a des synergies et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore sur les statistiques et les probabilités qui permettent de donner un risque de maladie.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Arnold Munich, donc chez Plon, programmé mais libre, les malentendus de la génétique. Il fallait entendre la voix du chercheur, du professeur, du médecin, voilà, dans cet ouvrage. Et puis on peut renvoyer à Science et Vie, donc ce mois-ci en kiosque, Lise Barnéo, donc avec votre expérience de test prédictif de votre ADN. C'est très intéressant, vous racontez tout ce qui vous est arrivé. Et puis c'est ce livre chez Belin, Médecine tout prédire, avec une infographie, comprendre vite et mieux avec la Cité des Sciences. Merci infiniment à tous les deux.
Merci
à bientôt.
Vous.